Un quoi qu'est-ce ? Pourquoi pas une bouilloire ?
Bonjour à tous, vous écoutez Archilittérature, un podcast proposé par la Maison de l'Architecture de Franche-Comté. Je suis Céline Morlot, votre lectrice du jour. Aujourd'hui, pour notre troisième épisode, Extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer, paru en 2005, ou Rêve de New York.
Oscar Schell, jeune garçon surdoué d'une dizaine d'années, a perdu son père lors des attentats du 11 septembre. Il avait l'habitude de se livrer avec celui-ci à des chasses au trésor dans les différents quartiers de New York. Mais la mort a interrompu leur dernière aventure. Oscar, aux semelles de plomb, décide, aux premières pages d'Extrêmement fort et incroyablement près, de terminer seul cette quête inachevée, dans l'espoir de se rapprocher de son père disparu, dont il ne parvient pas à faire le deuil. Rêveur, inventeur en devenir, notre narrateur personnage enfantin porte sur la ville de New York un regard inédit. Chaque bâtiment, chaque rue, chaque détail est l'objet de visions et créations fantasmatiques, parfois idéaliste et drôlatique, parfois sinistre voire effrayante, teintée du traumatisme qu'a causé la mort du père. Jonathan Safran Foer, dans ce roman, nous propose, en surimpression de la New York que nous connaissons, la ville-monde, une New York onirique de mystères et merveilles, décrite avec précision, la New York intérieure que vivent ses habitants, la ville telle qu'elle est ressentie, telle qu'elle transparaît à travers les caractères, affects et aspirations de ceux qui l'arpentent quotidiennement.
C'est tout de même bizarre que le nombre des morts augmente alors que la Terre reste de la même taille. Ce qui fait qu'un jour, il n'y aura plus de place pour enterrer personne, non ? Pour mes 9 ans, l'année dernière, grand-mère m'a offert un abonnement à National Geographic, qu'elle appelle LE National Geographic. Elle m'a aussi offert un blazer blanc parce que je ne mets que des habits blancs. Et il est trop grand pour moi, comme ça il me durera plus longtemps. Elle m'a aussi donné l'appareil photo de grand-père. Cet appareil, je l'adorais pour deux raisons. Le truc hallucinant, c'est que j'ai lu dans National Geographic qu'il y a plus de gens vivants aujourd'hui qu'il n'en est mort dans toute l'histoire de l'humanité. Autrement dit, si tout le monde voulait jouer à Hamlet en même temps, ce serait impossible parce qu'il n'y a pas assez de crânes. Alors pourquoi pas des gratte-ciel pour les morts qu'on construirait vers le bas ? Ils pourraient être sous les gratte-ciel pour les vivants qu'on construit vers le haut. On pourrait enterrer des gens jusqu'au 100e sous-sol et tout un monde mort existerait sous le monde vivant. Je me dis parfois que ce serait intéressant d'avoir un gratte-ciel qui monte et descend avec un ascenseur fixe. Pour aller au 95e étage, on n'aurait qu'à pousser le bouton 95 et l'étage viendrait. D'ailleurs, ça pourrait être extrêmement utile, parce que si on est au 95e étage et qu'un avion s'écrase en dessous, le bâtiment pourrait nous redescendre jusqu'en bas et personne risquerait rien. Même si on avait laissé sa chemise en graines pour oiseaux à la maison ce jour-là. Le dimanche, papa et moi, on jouait des fois à l'expédition de reconnaissance, un jeu formidable. Des fois, les expéditions étaient extrêmement simples, comme quand il m'a dit de rapporter quelque chose de chacune des décennies du XXe siècle, j'ai été astucieux et j'ai rapporté un caillou, et des fois elles étaient incroyablement compliquées et pouvaient durer une semaine ou deux. Pour la dernière, qui ne s'est jamais terminée, il m'avait donné un plan de Central Park. J'avais passé toute la journée à me promener à travers le parc, à la recherche d'un truc qui me dirait peut-être quelque chose, mais le problème c'est que je ne savais pas ce que je cherchais. J'abordais des gens pour leur demander s'ils savaient quelque chose que j'aurais dû savoir, parce que des fois, papa mettait au point les expéditions de reconnaissance de manière à ce que je doive parler aux gens. Mais tous ceux que j'avais abordés m'avaient simplement regardé d'un air de dire « Un quoi qu'est-ce ?» J'avais cherché des indices autour du réservoir. J'avais lu les moindres affiches placardées sur un arbre ou un réverbère. Examiné la description des animaux du zoo. J'avais même demandé à ceux qui faisaient voler un cerf-volant de le redescendre pour que je puisse l'inspecter, alors que je savais que c'était improbable. Mais papa pouvait très bien pousser la ruse jusque-là. Il n'y avait rien, ce qui était assez déplorable, sauf si rien était un indice. Rien était-il un indice ? Ce soir-là, on s'était fait livrer des plateaux gluten du général Tso pour le dîner, et je m'étais aperçu que papa mangeait avec une fourchette alors qu'il savait parfaitement se servir des baguettes. « Attends un peu !» Je m'étais levé et j'avais montré sa fourchette. « Cette fourchette, c'est un indice ?» Il avait haussé les épaules. Pour moi, ça signifiait que c'était un indice important. Je réfléchissais. « Fourchette, fourchette... » J'avais couru dans mon laboratoire sortir mon détecteur de métaux de sa boîte dans le placard. Comme je n'ai pas le droit d'aller seul à Central Park la nuit, Grand-mère m'avait accompagnée. J'avais commencé à l'entrée de la 86e rue et procédé par bandes extrêmement précises, comme les Mexicains qui viennent tondre la pelouse, pour être sûr de ne rien rater. Je savais que les insectes devaient faire du bruit parce que c'était l'été, mais je ne les entendais pas parce que j'avais mes écouteurs sur les oreilles. C'était un tête-à-tête entre moi et le métal souterrain. Chaque fois que les bips accéléraient, je demandais à grand-mère de braquer la lampe de poche sur l'endroit. Ensuite, je mettais mes gants blancs, je prenais ma pelle démontable et je creusais extrêmement doucement. Dès que je voyais quelque chose, je me servais d'un pinceau pour ôter la terre, tout à fait comme un vrai archéologue. J'avais fouillé qu'un petit bout du parc ce soir-là, mais j'avais quand même déterré une pièce de 25 cents, une poignée de trombone, une chaînette comme celles qui sont accrochées à une lampe et sur lesquelles il faut tirer pour allumer la lumière, et un aimant de réfrigérateur représentant un sushi. Je sais que ça existe, mais je préférais pas. J'avais mis toutes mes trouvailles dans un sachet en notant sur un plan le lieu de leur découverte. En rentrant, j'avais examiné tous ces éléments au microscope dans mon laboratoire, l'un après l'autre. Une cuillère tordue, quelques vis, une paire de ciseaux rouillés, une petite voiture, un stylo, un porte-clés, des lunettes cassées dont le propriétaire devait être incroyablement myope. J'avais étalé le plan sur la table de la salle à manger et posé des boîtes de V8 aux quatre coins. Les points indiquant l'endroit de chacune de mes trouvailles faisaient comme les étoiles de l'univers. Je les avais réunis comme un astrologue, et en plissant les yeux comme un chinois, on pouvait plus ou moins faire apparaître le mot « fragile ». Fragile. Qu'est-ce qui était fragile ? Central Park était-il fragile ? La nature, fragile ? Fragile, les choses que j'avais trouvées ? Une punaise n'est pas fragile. Est-ce qu'une cuillère tordue est fragile ? J'avais effacé pour joindre les points autrement, de manière à former « porte ». Fragile. Porte. Et puis j'avais pensé au mot français, bien sûr, « porte ». J'avais effacé et relié les points de manière à obtenir « porte ». J'avais eu la révélation que je pouvais relier les points de manière à former cyborg, polype, néné, et même Oscar, à condition d'être extrêmement chinois. Je pouvais les relier de manière à former à peu près tout ce que je voulais, ce qui signifiait que je n'avançais pas du tout. Et maintenant, je ne saurais jamais ce que j'étais censé trouver. Et c'est une chose de plus qui m'empêche de dormir. Enfin bref. Dans mon lit, ce soir-là, j'ai inventé un écoulement spécial qui serait sous tous les oreillers de New York et aboutirait au réservoir. Chaque fois que quelqu'un pleurait en s'endormant, les larmes iraient toutes au même endroit, et le lendemain matin, la météo pourrait annoncer si le niveau du réservoir des larmes avait monté ou baissé. On saurait si New York porte ou non des semelles de plomb. Et chaque fois qu'il arriverait quelque chose de vraiment vraiment terrible, une bombe thermonucléaire ou au moins une attaque par arme biologique, une sirène extrêmement forte se déclencherait, disant à tout le monde d'aller à Central Park et mettre des sacs de sable autour du réservoir. J'ai fait des recherches sur Internet au sujet des serrures de New York et j'ai trouvé plein de renseignements utiles. Par exemple, il y a 319 bureaux de poste et 207 352 boîtes postales. Chaque boîte a une serrure, évidemment. J'ai aussi découvert qu'il y a environ 70 571 chambres d'hôtel et que la plupart ont une serrure à l'entrée. Une pour la salle de bain, une pour la penderie et une pour le minibar. Comme je ne savais pas ce qu'était un minibar, j'ai appelé l'hôtel Plaza, dont je savais qu'il était célèbre, pour demander. Après, j'ai su ce que c'était qu'un minibar. Il y a plus de 300 000 voitures à New York et je ne compte même pas les 12 187 taxis et les 4 425 autobus. En plus, je me suis rappelé, du temps où je prenais le métro, que les contrôleurs ont des clés pour ouvrir et fermer les portes. Il fallait donc ajouter celle-là. Il y a plus de 9 millions d'habitants à New York, il y naît un enfant toutes les 50 secondes, il faut bien qu'ils aient un logement. Et la plupart des appartements ont deux serrures à l'entrée, souvent une à la salle de bain, peut-être aussi à la porte de certaines autres pièces, comme au tiroir des commodes et aux boîtes de bijoux, évidemment. Il y a aussi les bureaux, les ateliers d'artistes, les entrepôts, les banques et leurs salles des coffres, l'entrée des cours et des parkings. En comptant absolument tout, depuis les antivols de vélo jusqu'aux portes donnant sur les toits et les espèces de tiroirs secrets dans lesquels on met des boutons de manchette, j'ai calculé qu'il devait y avoir à peu près 18 serrures par personne à New York. Ce qui fait à peu près 162 millions de serrures, ce qui fait un tas de serrures à tomber sur le cunégonde. Je me suis chronométré, ça me prenait 3 secondes d'ouvrir une serrure. Ensuite, j'ai calculé que, s'il naît un enfant toutes les 50 secondes, et que chaque personne a 18 serrures, il se crée à New York une nouvelle serrure toutes les 2,777 secondes. Et donc, si je ne faisais qu'ouvrir des serrures, je prendrais quand même un retard de 0,333 secondes par serrure. Sans compter le temps nécessaire pour aller d'une serrure à l'autre, sans manger, sans dormir. Là, pas de problème, puisque en fait, je ne dormais pas de toute manière. Mais il me fallait un meilleur plan. Il était une fois où New York possédait un 6e district. Tu ne trouveras rien à ce sujet dans aucun livre d'histoire parce que, en dehors de quelques preuves indirectes à Central Park, rien ne permet d'établir qu'il ait jamais existé. Ce qui rend son existence très facile à réfuter. Mais si la plupart des gens disent qu'ils n'ont pas le temps ni aucune raison de croire au sixième district, et qu'ils n'y croient d'ailleurs pas, ils n'en utilisent pas moins le verbe « croire ». Le sixième district était une île, lui aussi, séparée de Manhattan par un mince cours d'eau, dont le point le plus étroit se trouvait être égal au record du monde de saut en longueur, de telle sorte qu'une seule personne exactement sur Terre pouvait passer de Manhattan au sixième district sans se mouiller. Le saut avait lieu chaque année et était l'occasion d'énormes festivités. On accrochait des bagels d'une île à l'autre à de longs spaghettis spéciaux, on jouait au bowling avec pour boule des samosas qu'on lançait contre des baguettes de pain qui servaient de quilles, et la salade russe volait comme des confettis. Les enfants de New York capturaient des lucioles dans des bocaux de verre qu'ils faisaient flotter entre les deux districts. Les bestioles s'asphyxiaient lentement. Les lucioles clignotaient rapidement pendant les quelques dernières minutes de leur existence. Si l'on calculait bien le moment du lâcher, la rivière scintillait à l'instant où le sauteur la franchissait. Quand le moment arrivait enfin, le sauteur en longueur prenait son élan depuis l'East River. Il traversait en courant toute la largeur de Manhattan. Encouragé par les New-Yorkais massés de part et d'autre des rues, aux fenêtres des appartements et des bureaux, et jusque dans les branches des arbres. Et quand il sautait, les New-Yorkais poussaient des acclamations depuis les rives de Manhattan et du 6e district, acclamant le sauteur et s'acclamant les uns les autres. Durant les quelques instants où le sauteur était en l'air, chaque New-Yorkais se sentait capable de voler. Ou peut-être vaudrait-il mieux dire de rester suspendu. Parce que ce qu'il y avait de plus enthousiasmant n'était pas que le sauteur passe d'un district à l'autre, mais qu'il reste si longtemps en l'air entre les deux. Une année, il y a de cela des années et des années, l'extrémité du gros orteil du sauteur effleura la surface de l'eau, causant une petite ride. Bouche bée, les gens virent la ride se propager du bord du 6e district jusqu'à Manhattan, faisant s'entrechoquer les bocaux de lucioles avec des tintements de carillons éoliens. « Vous avez dû manquer votre appui !» cria un édile de Manhattan à travers la rivière. Le sauteur fit non de la tête, plus perplexe que honteux. « Vous étiez contre le vent, » suggéra un édile du 6e district en tendant une serviette au sauteur pour son pied. Le sauteur secoua encore la tête. « Peut-être qu'il a trop bouffé à midi, » dit un badaud à un autre. « Ou peut-être qu'il vieillit, » dit un troisième qui avait amené ses enfants assister au saut. « Je parie qu'il n'y a pas mis tout son cœur, » dit un quatrième. « On ne peut pas faire un bond pareil sans un mental d'acier. »« Non, » répondit le sauteur à l'ensemble de ses spéculations. « Rien de tout ça n'est vrai, j'ai très bien sauté. » La révélation parcourut la foule des spectateurs comme l'onde causée par l'orteil, et quand le maire de New York l'exprima à haute voix, tout le monde l'approuva d'un soupir. Le sixième district se déplace. Millimètre par millimètre, le sixième district s'écartait de New York. Une année, tout le pied du sauteur en longueur fut mouillé. Quelques années plus tard, sa cheville, et au bout de bien des années, si nombreuses que nul ne gardait le souvenir du temps où la fête se déroulait sans anxiété, le sauteur dut tendre les bras pour s'accrocher à la rive du 6e district en extension complète, puis il ne parvint même plus à la toucher. Les 8 ponts qui reliaient Manhattan au 6e district se tendirent et finirent par s'écrouler l'un après l'autre dans l'eau. Les tunnels, à force de s'étirer, devinrent trop étroits pour livrer passage à quoi que ce soit. Les lignes du téléphone et de l'électricité rompirent, contraignant les habitants du 6e district à revenir à des techniques démodées qui ressemblaient pour la plupart à des jouets d'enfants. Les ingénieurs qui s'étaient occupés de la tour penchée de Pise, on les fit venir pour étudier la situation. « Il veut s'en aller, » conclurent-ils. « Bah, que pouvez-vous nous dire de plus ?» s'enquit le maire de New York. À quoi ils répondirent. « Il n'y a rien à dire de plus. » « Bien sûr, on essaya de le sauver. Encore que sauver ne soit peut-être pas le mot juste, puisqu'il semblait bel et bien vouloir s'en aller. Le mot juste serait peut-être retenir. On amarra les rivages des îles par des chaînes, mais les maillons ne tardèrent pas à rompre. On coula des pieux de béton tout autour du 6e district, mais cela échoua aussi. Les harnais échouèrent, les aimants échouèrent, et même la prière échoua. Les jeunes amis qui communiquaient au moyen de téléphones faits et de boîtes de conserve reliées par une ficelle tendue d'une île à l'autre durent dérouler de plus en plus de ficelles, comme pour laisser un cerf-volant monter toujours plus haut. « Ça devient presque impossible de t'entendre, » dit la jeune fille depuis sa chambre à Manhattan, où, avec les jumelles de son père, elle cherchait à apercevoir la fenêtre de son ami. « Je hurlerai s'il le faut, » dit son ami depuis sa chambre du 6e district, en braquant sur l'appartement de la jeune fille le télescope qu'on venait de lui offrir pour son anniversaire. La ficelle entre eux devint incroyablement longue. Si longue qu'il fallut y ajouter bien d'autres ficelles liées ensemble. Celle de son yo-yo à lui, celle qui faisait parler une de ses poupées à elle quand on tirait dessus, le mince ruban dont le père du jeune homme fermait son journal intime, le cordon ciré sur lequel étaient enfilées les perles que la grand-mère de la jeune fille avait autour du cou et qui sans lui auraient roulé par terre, le fil dont on avait cousu un tas de vieux chiffons quand le grand-oncle du jeune homme était petit pour lui faire un édredon. À l'intérieur de toute leur conversation, Il y eut donc désormais le yo-yo, la poupée, le journal, le collier et l'édredon. Ils avaient de plus en plus de choses à se dire et de moins en moins de ficelles. Le garçon demanda à la fille de dire « je t'aime » dans sa boîte sans lui donner d'autres explications. Elle n'en demanda aucune, ne dit pas « c'est bête » ni « nous sommes trop jeunes pour l'amour », ne suggéra même pas qu'elle disait « je t'aime » simplement parce qu'il le lui avait demandé. Elle dit tout bonnement « je t'aime ». Les mots parcoururent le yo-yo, la poupée, le journal, le collier, l'édredon, la corde à linge, le cadeau d'anniversaire, la harpe, le sachet de thé, la raquette de tennis, l'ourlet de la robe qu'un beau jour il aurait dû lui ôter. Le garçon ferma sa boîte d'un couvercle, la décrocha de la ficelle et rangea l'amour que la jeune fille avait pour lui sur une étagère de son placard. Et bien sûr, il ne put jamais ouvrir la boîte, parce qu'il en aurait alors perdu le contenu. Il lui suffisait de savoir qu'elle était là. Certains, comme la famille de ce garçon, refusaient de quitter le 6e district. Pour la plupart, il ne s'agissait pas de refuser l'évidence. De même qu'ils n'entraient dans leur attitude ni entêtement, ni principe, ni bravoure. Ils ne voulaient simplement pas déménager. Ils aimaient leur vie et ne souhaitaient pas en changer. Ils dérivaient donc, millimètre par millimètre. Tout cela nous amène à Central Park. Central Park ne se trouvait pas alors là où il est aujourd'hui. Il se trouvait alors en plein milieu du 6e district. Il en faisait la joie, le cœur. Mais quand il fut clair que le 6e district s'éloignait irrémédiablement, qu'on ne pouvait ni le sauver ni le retenir, la ville de New York se prononça par référendum pour le sauvetage du parc. Et il fut unanime. Même les plus obstinés habitants du 6e district reconnurent ce qu'il fallait faire. On planta d'énormes crochets dans la bordure orientale du parc et les gens de New York le halèrent, comme on tire un tapis sur un parquet, du 6e district jusqu'à Manhattan. Central Park a laissé un énorme vide en plein milieu du 6e district. À mesure que l'île dérive à la surface de la planète, il joue le rôle d'une espèce de fenêtre dans laquelle s'encadre ce qu'il y a en dessous. Il est maintenant en Antarctique. Les trottoirs sont couverts de glace, les vitraux de la bibliothèque municipale ploient sous le poids de la neige. Il y a des fontaines gelées dans les jardins publics gelés, où des enfants gelés sont immobilisés sur leurs balançoires que les cordes gelées maintiennent au sommet de leur course. Les chevaux de louage sont gelés à mi-trot. Les vendeurs des puces gelés à mi-boniment. Des quinquagénaires sont gelés à mi-vie. Le verdict des juges gelés s'est figé entre la culpabilité et l'innocence. Sur le sol, il y a les cristaux du premier souffle gelé des nouveau-nés et ceux du dernier soupir gelé des mourants. Sur une étagère gelée d'un placard fermé par la glace, il y a une boîte de conserve avec dedans une voix. En conclusion, on peut dire que l'âme même de la ville de New York s'incarne dans l'Empire State Building. Depuis les couples dont l'histoire d'amour est née ici jusqu'aux gens qui y sont revenus avec leurs enfants puis leurs petits-enfants, chacun s'accorde à reconnaître dans cet édifice non seulement un monument imposant qui offre une des vues les plus spectaculaires de la Terre, mais un symbole sans égal du génie de l'Amérique. Elle a salué, on a applaudi. « Avez-vous encore une minute, jeunes gens ?»« Nous avons un tas de minutes, monsieur Black a dit. » Parce que la visite officielle est terminée, mais il y a deux ou trois choses que j'aime énormément dans cet édifice, et je n'en fais part qu'aux gens dont j'ai l'intuition qu'ils sauront les apprécier. J'ai répondu, nous saurons incroyablement les apprécier. Le mât d'amarrage des dirigeables qui constitue aujourd'hui la base de la tour de télévision faisait partie de l'édifice original. Un premier dirigeable privé s'y amarra avec succès, mais au cours d'une autre tentative, en septembre 1931, un aérostat de la marine bascula presque à la verticale, manquant balayer de la plateforme les célébrités venues assister à cet événement historique, tandis que l'eau des balas tomba à plusieurs centaines de mètres de là, sur des piétons qui furent trempés des pieds à la tête. Malgré son caractère si romanesque, l'idée du mât d'amarrage finit par être abandonnée. Au printemps et en automne, lors des migrations saisonnières, l'éclairage du gratte-ciel est éteint pendant les nuits de brouillard, pour ne pas désorienter les oiseaux qui risqueraient alors de s'écraser contre l'édifice. 10 000 oiseaux meurent chaque année en s'écrasant contre des fenêtres, je lui ai dit, parce que j'étais tombée là-dessus par hasard en faisant des recherches sur les fenêtres des tours jumelles. « Ça fait beaucoup d'oiseaux, monsieur Black a dit. »« Et beaucoup de fenêtres, elle a dit. »« Oui, c'est pour ça que j'ai inventé un appareil qui détecterait les oiseaux quand ils sont incroyablement près d'un immeuble et déclencherait à partir d'un autre gratte-ciel un cri d'appel extrêmement fort vers lequel ils seraient attirés. Ce serait comme s'ils rebondissaient de l'un à l'autre. » L'Empire State constitue un paratonnerre naturel qui est frappé jusqu'à 500 fois par an. La plateforme d'observation extérieure est fermée pendant les orages, mais le salon panoramique intérieur reste ouvert. L'électricité statique qui s'accumule est si colossale au sommet de l'édifice que, si les conditions sont réunies, en passant la main à travers le grillage de la plateforme, On doit voir le feu Saint-Elme jaillir du bout de ses doigts. En s'embrassant ici, les amoureux sentent parfois leurs lèvres crépiter d'étincelles électriques. « Ça, c'est ce que je préfère, monsieur Black a dit. Et elle, moi aussi. Moi, c'est le feu Saint-Elme. » L'Empire State Building est situé à 40 degrés 44 minutes 53,977 secondes de latitude nord et 73 degrés 59 minutes 10,812 secondes de longitude ouest. Merci. C'était un enchantement, monsieur Black a dit. Merci, elle a fait. Je lui ai demandé comment elle savait tout ça. Si je sais beaucoup de choses sur l'Empire State, c'est que je l'aime.
C'était Extrêmement fort et incroyablement près, Rêve de New York, troisième épisode du podcast Archilittérature, une lecture proposée par la Maison de l'Architecture de Franche-Comté. À bientôt !